that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good, votre rendez-vous hebdomadaire où pendant 30 minutes nous avons le bonheur de rencontrer un homme ou une femme qui va nous partager ses ondes positives, celles qui nous font avancer. Alors il est à la fois scientifique et spirituel, il adore son métier, il adore sa famille et sa foi le fait avancer. Par contre il n'aime pas parler de lui, ça va être une émission pas facile à vivre ensemble mais vous allez voir. On va en tirer du bon. Madame, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Amine Nejdi.
So good, so good, I got you.
Bonjour Amine.
Bonjour Christophe.
Alors n'hésite pas à te rapprocher du micro, t'inquiète pas, il ne va pas te manger. Et on va passer 30 minutes ensemble dans un exercice pas facile, où tu vas nous parler un petit peu de toi, parce qu'on a besoin, on a envie, j'ai très envie de faire connaissance et de proposer ta connaissance à nos auditeurs et téléspectateurs. Amine, tu es à la fois directeur de développement d'une société dans le développement durable. Tu as eu un parcours dans le domaine de la recherche scientifique pas nul, au contraire. Tu as 3 enfants, tu viens du Maroc, tu as créé quelques petites mosquées comme ça, et puis aujourd'hui tu es le recteur et l'imam de la mosquée de Tomblaine. Ça fait quoi d'avoir 36 000 vies en même temps ?
Enfin, ça donne plaisir d'être sur cette terre. C'est que lorsqu'on peut vivre plusieurs vies, on rassemble en nous ce qui est dispersé chez beaucoup d'autres personnes, et ça c'est une chance inouïe. Parce que vivre d'une manière monotone, une seule vie avec un seul objectif, avec un seul horizon, c'est quelque chose qui doit être très ennuyeux, je crois.
Et pourtant, tu viens une demi-heure avant l'émission, posé, tranquille, t'es pas connecté à ton téléphone tout le temps, tu prends le temps de vivre.
Non, ça va, tu as vu qu'une demi-heure de ma vie. Si c'était avant, après, tu verras que c'est pas si cool que cela.
Alors, ouais, justement, mais ce rythme de vie, ça vient de l'enfance, ça vient d'où?
Ça vient de l'enfance. J'ai eu la chance d'avoir, de faire partie d'une grande famille, d'avoir un père intellectuel, très, 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 très riche au niveau de ses connaissances, et d'avoir une mère aussi extraordinaire. Et donc, c'est ce qui m'a permis un petit peu d'avoir plusieurs cordes à mon arc, si j'ose dire.
Alors, c'est un peu les mêmes cordes, on en a parlé de papa et de la maman.
En fait, ils étaient complémentaires. Mon papa était un peu très traditionnel, c'est un théologien qui a étudié dans une prestigieuse université, la plus ancienne au monde, c'est Al-Qarawiyyin, à Fès. Et ma mère avait une culture plutôt française, parce qu'il a grandi avec les sœurs à Meknès. Et donc j'avais cette chance-là d'avoir une éducation un peu à deux vitesses, équilibrée entre la modernité, si j'ose dire, et la tradition.
Donc la modernité de la maman, c'est
de
ça
la maman, c'est plutôt de la maman.
Un goût pour les sciences aussi, je crois, c'est elle. Hein,
oui,
c'est ça.
Elle a un goût pour les sciences, pour les mathématiques. C'est elle qui m'a appris le français depuis mon jeune âge, parce que mon père, il parlait que l'arabe. Mon père, c'était plutôt un littéraire au niveau de l'arabe et tout ça. Donc j'ai pu acquérir de l'un et de l'autre, ce qui m'a donné une certaine richesse.
Un papa imam ?
Non, il n'est pas imam, il est théologien.
Il est théologien, ouais.
Mais il était professeur.
Prof de théologie ?
De langue arabe et de théologie.
D'accord. Tu as vécu où alors ? Tu as vécu cette enfance où ?
J'ai vécu à Meknès, une grande ville, d'ailleurs très appréciée par les Français lors du protectorat. C'était d'ailleurs la capitale des Français lors de le protectorat, ce qui m'a permis justement d'entrer en contact avec la culture française depuis le jeune âge. Donc je m'étais inscrit au Centre culturel français, un centre très prestigieux au Maroc. J'étais inscrit chez un père, donc pour vous dire un petit peu le hasard, comment il fait les choses, qui avait un local dans lequel il accueillait les étudiants pour apprendre, pour jouer, parce qu'il était un bon joueur d'échecs. Et j'étais un très bon joueur d'échecs, j'étais champion de Meknès aux échecs. Donc ça m'a permis un petit peu d'entrer en contact avec la culture française depuis très tôt. J'étais inscrit aussi à un club de cinéma, dans un grand cinéma qui s'appelle L'Empire. Et donc c'est depuis l'enfance justement que j'ai baigné dans la culture française. Et c'était un rêve pour moi justement de venir en France, chose qui a été concrétisée en 1989.
Alors, il donne tout de suite sa première date importante dans sa vie, 1989, à Amine, juste avant. J'entends dans la jeunesse, j'entends pas beaucoup de sport. Si, c'était.
Si. J'étais un skateboarder.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
J'étais bon en gymnastique. Voilà, après, c'est le sport.
Des frères et sœurs? Tu disais une famille d'enfants?
Oui, nous sommes cinq. Voilà. Nous sommes cinq, trois sœurs et un frère. Et moi-même.
Alors. Tu l'as dit assez rapidement, 1989, ça marque une date importante dans ta vie. Tu arrives en France, en métropole.
Je suis venu directement sur Nancy. Ouais. J'étais, après mon bac, j'avais postulé pour un poste à la fac de médecine de Toulouse. Et j'ai été accepté avec une bourse d'État. Mais j'avais que 17 ans. Et donc mon père a refusé que je parte. Parce qu'il trouvait que j'étais encore pas assez mûr pour m'engager dans cette aventure. Et donc, il a fallu que je passe trois ans.
Quelle bonne idée. Voilà. Quelle bonne idée. Ça a évité que tu ailles à Toulouse et que tu viennes chez nous, enfin.
Voilà. Donc, en quoi les choses sont bien faites. Et donc, j'ai passé trois ans à la faculté de Meknès, où j'ai étudié la biologie et la géologie, et en licence. Donc là, j'ai postulé encore une autre fois pour une maîtrise, ici à Nancy, et j'ai été accepté. Et donc, c'était l'occasion, justement, de réaliser un rêve, qui est celui de terminer mes études ici en France.
Tu as terminé quelles études pour t'orienter vers quoi alors après ?
Alors j'ai fait une maîtrise en physiologie animale, physiologie végétale.
Ouais.
Ensuite je me suis déplacé à mi-temps si j'ose dire à Strasbourg pour un DEA, un diplôme d'études approfondies en biologie de comportement. Ensuite je suis revenu à Nancy pour donc un doctorat, une thèse d'université en neurosciences.
C'est vraiment, tu aimes ça. Hein.
J'aime ça, ouais. Je vais m'aller jusqu'au bout de mes rêves. Et après donc... Je me suis inscrit à la fac de médecine pour un diplôme universitaire en nutrition et en diététique thérapeutique qui a duré deux ans avec un stage de six mois après. Et je me suis aussi inscrit à l'université de Strasbourg pour un diplôme, enfin j'ai un cumulard de diplômes, un diplôme en chirurgie animale. Voilà, donc il y a pas mal
et tout
de...
ça, ça donne quoi alors dans une vie professionnelle?
Ça enrichit, c'est pas pour le pécunier, mais plus pour une richesse intellectuelle, donc ça permet un petit peu de... Voilà, d'avoir une vue panoramique sur ce qui nous entoure, parce que depuis toujours, j'étais très curieux de savoir... Il y a des questions, bien entendu, existentielles, et dans le domaine de la biologie notamment,
ça permet de répondre
à énormément de questions. Et par ailleurs, ces éléments scientifiques m'ont permis de redécouvrir ma religion d'un angle plutôt scientifique, ce qui m'a beaucoup réconforté dans ce que je suis aujourd'hui. Et de mes choix d'aujourd'hui.
Alors là, tu fais un super teasing. Explique-nous pourquoi, Amine. Alors pourquoi ?
Non, pourquoi ? Parce que
en
on
quoi
a toujours cette tendance.
Les sciences de la biologie, les sciences de la nature t'ont rapproché de ta mais religion.
Ça, c'est ce qui peut. Enfin, ça peut être. Ça l'islam. Peut paraître comme étant paradoxal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les musulmans étaient pionniers dans plusieurs domaines scientifiques, plusieurs domaines profanes. Et c'était pour servir leurs exigences religieuses qu'ils se sont approfondis dans ces sciences-là. Mais bien entendu, en Europe, on sait qu'il y avait cette dichotomie ou bien cette opposition entre spiritualité et science, au point que la science est devenue quelque part l'ennemi de la religion, ou vice-versa. Alors que de mon point de vue, c'est tout à fait le contraire. On trouve qu'il y a beaucoup de concordance entre les deux, en tout cas en tant qu'homme de foi. Je sais que la science... Ben, par exemple, lorsqu'on parle de l'existence de la vie, de comment la vie a débuté, jusqu'à maintenant, on a des théories qu'on arrive à plus ou moins prouver avec certains arguments. Et nous, en tant que croyants, on arrive à trouver ces arguments dans certains textes scripturaires sur lesquels on se base. Donc ça nous réconforte sur cette vision-là. Et combien même on peut émettre parfois certaines théories qui peuvent s'opposer à la théorie, alors si on la considère pour nous, on ne la considère pas comme une théorie créationniste, on voit souvent qu'il y a des remises en cause concernant beaucoup de textes, d'affirmations qu'on a avancées au niveau scientifique. Et donc, en tant que scientifique, je fais ce va-et-vient entre la religion et les données scientifiques. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé quelque chose qui pourrait saper ma croyance ou remettre en cause ne serait-ce qu'une once de ce à quoi je crois.
Mais t'es même... en train de nous dire le contraire, c'est que le dialogue entre l'une et l'autre te font avancer.
Il fait avancer. Et c'est un manque de chance que de ne pas visiter ce champ-là et ce domaine-là.
Alors tu nous disais 1989, la date de ton arrivée à Nancy, du coup. Tu gardes une image peut-être, une surprise, une émotion particulière. Il y a un moment particulier de 1989.
Alors 1989, mon arrivée sur Nancy, je me rappelle, on m'a dit que c'était une ville qui il fait très froid. Ouais. Je suis venu au mois de septembre. Donc, je me rappelle, je suis venu avec un parapluie qui faisait à peu près 1m20. Et je débarque à la gare de Nancy. Tout le monde me regardait, un parapluie au mois de septembre. Donc là, c'était vraiment mes débuts. Et ce que je retiens aussi, c'est que je cherchais un logement et je l'ai fait par téléphone et je me suis retrouvé dans un foyer à 9 maisons, à me déplacer à pied avec mes bagages de la gare de Nancy jusqu'à la maison parce que je ne voulais pas prendre de bus parce que je pensais que bon, tout était accessible comme ce fut le cas dans mon pays natal.
Ouais. Bah, voilà. Donc ça c'est une image
franchir, voilà, du premier arrivé, voilà. Ah. Donc ça voilà, chaque fois c'est l'image qui ne saute pas de ma mémoire.
Donc ça c'était l'arrivée. Deuxième date importante dans ta vie, 1996. Donc 7 ans plus tard.
Oui, donc ça c'était mon mariage. Voilà, on sait très bien que le mariage c'est un tournant important dans la vie d'une personne parce que ça donne une certaine stabilité. Ça permet de réaliser aussi c'est pas un rêve, mais je dirais un besoin vital d'être père ou d'être une mère. D'enfanter, de transmettre non seulement les gènes, parce que ça, tous les animaux le font, mais de transmettre aussi des valeurs, des convictions.
Donc là, j'ai le scientifique et le spirituel qui arrivent.
Oui,
là,
voilà,
encore.
Voilà. Ça permet d'avoir une vision un petit peu philosophique particulière de la vie.
Qu'est-ce que... Alors, sur les gènes, ça c'est fait. Sur les valeurs, c'est sur...
Sur les valeurs, ben, on essaie
J'ai même pas le temps de finir la question, et t'as raison. Tu enchaînes, vas-y, Amid.
Non, mais je veux dire, on essaie de faire notre job. Comme nous disons toujours, merci à Dieu, le devoir a été accompli. J'ai des enfants, 3 filles qui maintenant sont majeures. Donc, au niveau de leur cursus scolaire, ils ont bien réussi leur vie. Au niveau de leur vie spirituelle, j'estime avoir transmis le plus important de ce qu'il faut transmettre.
C'est quoi alors justement alors,
Bah, une certaine vision de la vie, une certaine moralité, une certaine éthique avec laquelle on doit mener sa vie, le respect de l'autre. Je dirais même pas la tolérance, mais le respect. Parce que la tolérance, pour moi, c'est un terme qui reste encore, enfin qui garde une petite connotation péjorative. Ça veut dire, j'aime pas la personne, mais je la tolère.
Moi, je alors que plutôt, la vraie définition de la tolérance, c'est pas ça.
Oui, voilà. En tout cas, c'est la connotation qu'on lui donne aujourd'hui. Alors que je préfère dire respect parce que lorsqu'on connaît l'autre, lorsqu'on découvre l'autre, on ne peut que le respecter, quand bien même on n'est pas forcément d'accord avec lui sur tous les angles de sa vie ou de ses choix. Mais c'est ce qui fait la richesse des êtres humains. Nous ne sommes pas des clones. Donc, par définition, nous sommes différents les uns les autres. Il y a une grande disparité entre nous, une grande différenciation qui revient aux origines, qui revient à l'éducation, qui revient aux convictions. Et justement, la connaissance de l'autre permet d'avoir une certaine richesse et de vivre à travers l'autre ce que nous-mêmes, on n'a pas vécu. Et ça, c'est très intéressant.
Tu pourrais me faire enchaîner avec la troisième date importante dans ta vie, mais on va se la garder un tout petit peu parce que c'est 2003 et c'est une année pour toi où tu as pris des responsabilités, où aussi ton papa est parti, donc l'enchaînement était un peu facile, mais on va se le garder, cette troisième date importante dans ta vie, pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu dis que tu as tu as démontré que tu avais une vie un peu à 360 degrés dans le contenu, dans la vision, à la fois les sciences, le développement économique, c'est quelque chose qui t'intéresse. Aujourd'hui, tu es directeur de développement d'une entreprise dans le développement durable. Et puis, d'un point de vue spirituel, tu as accompagné la création et le développement de mosquées sur notre territoire. Sur ces deux institutions, l'entreprise et les mosquées, ta réflexion, qu'est-ce que ça t'a apporté l'entreprise ?
L'entreprise, c'est une... Enfin, je suis quelqu'un qui aime des défis et explorer des domaines qui ne faisaient pas partie de mon répertoire. Et diriger une entreprise, c'est quelque chose qui est enrichissant parce que là, on découvre justement l'état d'esprit de ceux qui dirigent les entreprises. Et donc, lorsqu'on est dedans, c'est pas pareil que lorsqu'on est à l'extérieur. Alors que, bon, le cursus scolaire, on suit un chemin qui est déjà tracé et tout, donc on subit quelque part. Après, bon, il y a bien entendu, on a une certaine marge de liberté. Mais l'entreprise, bon, il y a de la création, Quoique, dans la vie, on peut entreprendre d'autres choses que les entreprises qui sont dans le domaine financier. Mais c'est toujours ce défi-là de découvrir un nouveau domaine, d'être entreprenant, d'être dans la construction, dans l'édification et l'échafaudage de tous les éléments d'une entreprise.
Alors, si tu étais dans du domaine plutôt scientifique, tu t'intéresses peut-être plus aujourd'hui, alors ça reste scientifique, mais vers le développement durable, vers l'environnement, c'est un virage que tu as pris.
Virage d'un côté, mais une continuité logique dans l'autre. Comme j'étais dans la recherche un peu plus de 20 ans, donc j'étais toujours au contact de découverte de certains éléments. Moi, je travaillais beaucoup dans la neurosciences et dans la psychopharmacologie, donc on découvrait certaines substances. Dans la phase de préclinique, en fait, avant la mise sur le marché de certains médicaments parfois. Donc nous, on travaillait sur des animaux pour tester des médicaments. Et donc on est en avance quelque part par rapport à ce que le marché va connaître plus tard dans le domaine pharmacologique. Et ça, c'est très très passionnant comme vie. Et d'autant plus que, parce que j'étais dans une entreprise qui touchait un petit peu à plusieurs domaines. J'ai touché au domaine nutritionnel, au domaine de la neurologie, au domaine de maladie d'Alzheimer par exemple, au niveau du domaine de la mémoire, au niveau de la maladie de Parkinson, et ainsi de suite. Donc pas mal de domaines, et c'est toujours très stimulant lorsqu'on découvre une molécule ou bien un produit naturel dans lequel on trouve des vertus thérapeutiques. On parle des alicaments par exemple, j'étais dans ce domaine-là. Et donc le lien s'est fait, voilà, vite fait, avec l'environnement, donc la nature, l'environnement, maintenant avec le développement, avec les énergies renouvelables et tout cela. Donc voilà, les circonstances ont fait que je me trouve dans ce domaine-là, j'ai dit pourquoi pas. En tout cas, on a toujours la même procédure, et cette procédure, on peut l'appliquer à n'importe quel domaine, et on arrive forcément à réussir, plus ou moins, bien entendu.
Cette vie scientifique amène cette continuité, alors, mais... Et du côté de la spiritualité, alors comment tu es arrivé en France, comment tu as développé, tu as contribué à faire vivre des communautés musulmanes sur le territoire de manière dynamique.
Alors de par mon éducation,
pardon, je touche à ta modestie, mais,
de par mon éducation, j'avais toujours cette spiritualité qui m'accompagnait dans mon cursus scolaire. Et donc lorsque je suis venu ici en France, j'ai découvert une communauté des premiers arrivants. Qui avait construit des petites mosquées modestes. Mais j'ai découvert aussi les nouvelles générations qui sont nées ici en France. Et là, il y avait un grand écart entre les anciennes et les nouvelles générations. Bon, j'avais cette chance de faire partie des deux. De par ma jeunesse, donc j'étais beaucoup plus proche de la nouvelle génération. De par mon éducation, j'étais proche de la première génération. Et donc, c'est comme ça que je me suis trouvé malgré moi. Ce n'était pas quelque chose de programmé, en tout cas par moi, programmé ailleurs. Mais je me suis trouvé dans ce domaine-là à apporter un petit peu de mes connaissances dans les deux domaines et à jouer ce trait d'union entre l'ancienne et la nouvelle génération. Donc j'étais parmi les premiers qui avaient donné des prêches en français ici en Lorraine. Donc à l'époque, je m'appelle les années 92-93, ça se voyait comme une hérésie ou bien une innovation, alors que c'est quelque chose qui est devenu maintenant tout à fait normal et naturel. Et donc c'est comme ça que je me suis trouvé bénévole dans des petites salles de prière, à donner des conférences à travers tous les territoires de l'Est de France d'ailleurs. Et de fil en aiguille, donc c'est devenu une des activités principales de ma vie.
Est-ce que c'est parce que justement c'était des prêches en français qu'il y avait cette envie d'avoir des prêches en français alors ?
Le français, c'était une langue dans laquelle j'ai baigné, comme j'ai dit, depuis l'enfance. Ouais. Et donc il fallait la réadapter par rapport à... c'est-à-dire par rapport au vocabulaire religieux, si j'ose dire, ce qui n'est pas très très facile, et pas très connu même par un français normal, c'est-à-dire le discours un petit peu religieux, un peu particulier, d'autant plus que l'islam a des spécificités qui peuvent le différencier du christianisme ou bien du judaïsme. Mais en tout état de cause, voilà, c'était un domaine de recherche et de construction, et c'est ce qui permet bien entendu d'avoir un enrichissement très très satisfaisant.
Donc tu as fait des études de théologie aussi en parallèle ?
Oui, tout à fait.
Alors quand, où, et puis alors, ça conduit à quoi ?
Alors déjà, je les ai eus d'une manière traditionnelle. De
ah, il est dur, Amine. Hein, il ne se livre pas facilement. Il faut aller le chercher. Ah, voilà, voilà. Alors, tu l'as dit juste avant le début de l'émission. Dans ma culture, il y a un petit peu de discrétion à avoir sur.
Oui, parce que d'ailleurs, la première fois que tu as pris contact avec moi pour me dire, on t'a conseillé de m'inviter à cette émission, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai de si particulier pour mériter de passer sur une antenne?
Ça n'a pas été facile. Il a fallu aller discuter quand même 2 heures à Tomblaine pour pouvoir avoir Amine aujourd'hui dans l'émission. Voilà. Je tiens à le dire.
Après, donc, c'est pour aussi la motivation. Enfin, d'autres personnes voulaient que je le fasse. Voilà, ouais. Donc, c'est pour ça que je me trouve ici avec vous et avec les auditeurs. En espérant que cet entretien apporterait quelque chose.
Alors, vas-y, état de cause. Ouais.
Voilà, pour tout ce qui est théologie, donc là, c'était, comme j'ai dit, les bases, je les avais. Ouais. Donc, puisque je
papa s'était occupé de là.
Occupé de ça. Voilà, le papa a donné énormément à ce niveau-là. Pas d'une manière, je veux dire, pas dans une université ou quelque chose comme ça, mais là, c'était l'apprentissage quotidien, donc c'était naturel. C'était la foi par la famille. J'ai un père, comme j'ai dit, qui est très très attaché au livre. Depuis que j'ai ouvert les yeux, j'avais une bibliothèque immense dans la maison, un bureau, donc vraiment, le contexte était un contexte d'instruction, de connaissance, de recherche, et donc c'est ce qui permet un petit peu d'avoir une approche panoramique à tout ce qui est scientifique. De manière générale, je ne parle pas que la science profane, mais de la connaissance, voilà. Et autrefois, d'ailleurs, les êtres humains, ils étaient ainsi. Ils étaient encyclopédiques dans leur connaissance. Malheureusement, aujourd'hui, on va de plus en plus vers la spécialisation, ce qui, malheureusement, présente beaucoup de désavantages. Et je le vois, par exemple, dans le domaine médical. Lorsqu'on est très spécialiste dans un domaine très pointu et on n'en connaît pas beaucoup de choses ailleurs, on finit par découvrir qu'il y a des liens. qu'il y a des liens à côté desquels on est passé. Et ça se trouve beaucoup dans le domaine scientifique, justement. J'avais la chance, justement, d'être dans la neuroscience, biologie de comportement. On la qualifie du carrefour des sciences biologiques. Donc, ça permet un petit peu de toucher à plusieurs sciences. Et ça, ça donne une grande richesse. Donc, le domaine médical, le domaine pharmaceutique, le domaine biologique, physiologique, des choses comme ça. Et je crois que, en tant qu'être humain, nous devons d'avoir cette vision générale et encyclopédique. C'est ce qu'on a, heureusement, à l'enfance, lorsqu'on est à l'école. Mais maintenant, on va de plus en plus vers... on a plus besoin de main-d'œuvre, si j'ose dire. À partir du bac, on a besoin de la main-d'œuvre. On n'a pas besoin de connaisseurs ou bien de gens qui vont se verser dans la découverte du monde, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont en train de faire, vers quoi, vers où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et ça, c'est dommage. Je dirais que c'est dommage à notre époque.
Alors, c'est peut-être aussi ce que nous invite à questionner la spiritualité en permanence, mais ton parcours en spiritualité, comment tu es devenu imam ?
Ben c'est ça, c'était pas une demande de ma part, c'était la communauté, comme j'ai dit, qui, lorsqu'il voit en vous certaines compétences,
quand tu as fait des
prêches, religieuses, linguistiques, de communication, psychologique, ainsi de suite. Donc, c'est au fur et à mesure, on se trouve propulsé à cette fonction. Il y a bien entendu des imams qui ont suivi un cursus pour devenir imam.
Ouais.
Donc là, c'était un choix. Et parfois, on peut trouver qu'ils ont peut-être parfois certaines visions un petit peu limitées dans d'autres domaines, parce qu'ils n'ont pas pu découvrir d'autres domaines, c'est dommage pour eux. Alors que dans la religion musulmane, lorsqu'on enseignait dans les mosquées, on parlait de chair, de science. Normalement, à la base, on donnait accès à toutes les sciences. Je parlais tout à l'heure de l'université de Al-Qarawiyyin, on peut parler aussi de la mosquée de Cordoue, dans lesquels on donnait des cours aussi bien de sciences profanes que de sciences religieuses et auxquels pouvaient participer les gens qui venaient de tous les horizons. Le pape Sylvestre II, c'est un pape français, parmi les rares papes français, qui a étudié chez les musulmans, qui a appris chez les musulmans. Et d'ailleurs, c'était le premier qui a fait rentrer les chiffres arabes ici en Europe. Et tellement il était érudit que le Vatican l'a choisi pour le promouvoir à cette fonction de pape. Lorsqu'on parle de Maïmonide, qu'on considère comme le petit Moïse chez les juifs, C'est quelqu'un qui a étudié, entre autres, dans des mosquées et qui a enseigné aussi dans des mosquées et qui était, entre autres, un médecin. Donc, c'était quelqu'un aussi qui avait plusieurs cordes à son arc. Et c'est quelqu'un qui a vécu avec les musulmans, sous la gouvernance des musulmans, mais il y avait un vivre ensemble extraordinaire. Et le savoir était la propriété de tout le monde, comme la civilisation est la propriété de tout le monde. Personne ne peut se pavaner de dire que c'est moi qui suis à la base de telle civilisation. Chaque peuple, chaque génération a apporté à la civilisation qui est devenue un patrimoine mondial. Et chacun a apporté sa pierre à cet édifice.
Mais l'imam que tu es, alors qu'est-ce que nous enseigne la religion alors ?
Ça nous enseigne ça, justement, d'aimer l'autre, de respecter l'autre, de découvrir l'autre, de comprendre l'autre, d'accepter la différence avec l'autre. Je veux dire accepter, c'est-à-dire sans aucune gêne et sans aucun complexe. Donc, bien entendu, il y a le développement spirituel personnel. Ça, c'est la personne elle-même qui en profite. Mais en ce qui concerne sa relation avec l'autre, forcément, la spiritualité permet d'avoir possession de plusieurs paramètres et qui permettent d'être ouvert à l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, d'être rentable à l'autre et d'apporter quelque chose dans sa vie. Parce que ça serait dommage de passer dans cette vie et de sortir par la petite porte sans y avoir apporté quoi que ce soit.
Alors justement, troisième date importante dans ta vie, quelqu'un qui est sorti de ta vie, c'est ton papa qui décède. Et puis en même temps, toi tu prends un envol vers d'autres responsabilités importantes, c'était en 2003, puisque tu deviens président du comité consultatif du culte musulman de Lorraine. Il y a un lien entre les deux ?
Il n'y a pas de lien. En fait, il y a un lien qu'on peut-être on voit a posteriori, mais en tout état de cause, la mort de mon père, c'était un choc. D'autant plus qu'il est décédé à un âge relativement jeune, il a 66 ans. Le papa était vraiment, un pilier principal dans ma personnalité, dans ma vie. C'est quelqu'un qui m'accompagnait et le dialogue avec lui, l'échange avec lui était très, très, très riche. Je garde encore, à l'époque, il n'y avait pas la facilité de correspondance et de dialogue comme aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était par des lettres. Donc, je garde encore un pavé de lettres que j'ai échangé avec lui. Donc,
tu les as toujours.
Tous les 15 jours, j'attendais le retour de sa lettre. Donc, j'envoyais ma lettre. Il fallait une semaine pour qu'elle arrive chez lui, son retour. Et donc, il orientait par rapport à ce que je lui racontais. Il orientait ma vie, mes choix. Combien de fois il m'a interdit certains choix, comme par exemple le fait de partir au Canada. J'avais postulé pour faire un post-doc au Canada. J'étais accepté. Tout était bon, tout était ficelé. Et lui, il a dit non, niet. Et j'avais l'habitude de l'écouter à ce niveau-là, et je ne regrette pas d'ailleurs. On avait quelqu'un derrière soi, un coach qui nous suivait, qui nous orientait, à qui on partage ses soucis, ses rêves, ainsi de suite. Et là, bien entendu, sa disparition, c'était un vrai, vrai, vrai choc. Et la même année, justement, il y a eu la création du Conseil français du culte musulman, avec des élections régionales, avec des déclinaisons régionales, en l'occurrence le conseil régional du culte musulman, c'était sur les 4 départements de Lorraine.
Et cette responsabilité-là, elle est quand même lourde.
Oui, elle est lourde, parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité, ça, c'est quelque chose qui est naturel, même Dieu n'a pas fait l'unanimité, malheureusement. Mais ça c'est venu dans la continuité de ce que je faisais, voilà, dans la logique de ce que je faisais.
Et en quoi cette responsabilité, elle te donne de l'envie, de la joie
Lorsqu'on voit qu'on rend service, et lorsqu'on voit qu'il y a des gens qui vous remercient sincèrement pour ce que vous leur avez apporté, le peu que vous leur avez apporté, forcément, ça ne peut que faire plaisir et encourager à faire encore plus. Parce que c'est en donnant aux autres qu'on prend de la valeur et qu'on voit qu'on a une utilité dans notre existence. Si on ne doit exister que pour consommer et disparaître un laps de temps après, je vois que c'est dommage.
Que ça passe vite une demi-heure. Merci Amine de t'être arrêté pour partager un peu
merci
de
pour
ce
l'invitation.
Qui te donne envie d'agir et de nous l'avoir partagé avec confiance, avec foi et avec espérance. Merci.
Merci.